Catastrophe. Elle frémit. Déjà, elle avait pris la bouteille pour l'examiner. Mais elle la reposa avec horreur, en la sentant humide et poissée de la chair de l'oncle. On ne pouvait rien toucher. Les moindres choses étaient comme enduites de ce suint jaunâtre qui collait aux mains. Un frisson de dégoût épouvanté la souleva. Elle pleura en bégayant. La triste mort, l'affreuse mort! Pascal s'était remis de son premier saisissement et il souriait presque. Affreuse? Pourquoi? Il avait 84 ans et il n'a pas souffert. Moi, je la trouve superbe, cette mort, pour ce vieux bandit d'oncle qui a mené, mon Dieu, on peut bien le dire à cette heure, une existence peu catholique. Tu te rappelles son dossier? Il avait sur la conscience des choses vraiment terribles et malpropres, ce qui ne l'a pas empêché de se ranger plus tard, de vieillir au milieu de toutes les joies en brave homme goguenard, récompensé des grandes vertus qu'il n'avait pas eues. Et le voilà qui meurt royalement, comme le prince des ivrognes, flambant de lui-même, se consumant dans le bûcher embrasé de son propre corps. Émerveillé, le docteur élargissait la scène de son geste vague. « Vois-tu cela? Être ivre au point de ne pas sentir qu'on brûle, s'allumer soi-même comme un feu de la Saint-Jean, se perdre en fumée jusqu'au dernier os. Hein? Vois-tu l'oncle parti pour l'espace? D'abord répandu aux quatre coins de cette pièce, dissous dans l'air et flottant, baignant tous les objets qui lui ont appartenu, puis s'échappant en une poussière de nuée par cette fenêtre, lorsque je l'ai ouverte, s'envolant en plein ciel, en plissant l'horizon. Mais c'est une mort admirable! Disparaître, ne rien laisser de soi, un petit tas de cendres et une pipe à côté. » Et il ramassa la pipe pour garder, ajouta-t-il, une relique de l'oncle. Tandis que Clotilde, qui avait cru sentir une pointe d'amère moquerie sous son accès d'admiration lyrique, disait encore, d'un frisson, son effroi et sa nausée. Mais, sous la table, elle venait d'apercevoir quelque chose, un débris peut-être. Vois donc là ce lambeau. Il se baissa. Il eut la surprise de ramasser un gant de femme, un gant vert. « Hé ! » cria-t-elle, « c'est le gant de grand-mère. Tu te souviens, le gant qui lui manquait hier soir ?» Tous les deux s'étaient regardés. La même explication leur montait aux lèvres. Félicité, la veille, était certainement venue, et une brusque conviction se faisait dans l'esprit du docteur, la certitude que sa mère avait vu l'oncle s'allumer et qu'elle ne l'avait pas éteint. Cela résultait pour lui de plusieurs indices. L'état de refroidissement complet où il trouvait la pièce, le calcul qu'il faisait des heures nécessaires à la combustion. Il vit bien que la même pensée naissait au fond des yeux terrifiés de sa compagne. Mais, comme il semblait impossible de jamais savoir la vérité, il imagina tout haut l'histoire la plus simple. « Sans doute ta grand-mère sera entrée dire bonjour à l'oncle en revenant de l'asile avant qu'il se mette à boire. »«
Allons-nous-en, allons-nous-en !» cria Clotilde. « J'étouffe, je ne puis plus rester ici. »
D'ailleurs, Pascal voulait aller déclarer le décès. Il sortit derrière elle, ferma la maison, mit la clé dans sa poche. Et, dehors, ils entendirent de nouveau le loubet, le petit chien jaune, qui n'avait pas cessé de hurler. Il s'était réfugié dans les jambes de Charles, et l'enfant, amusé, le poussait du pied, l'écoutait gémir sans comprendre. Le docteur se rendit directement chez M. Morin, le notaire des Tulettes, qui se trouvait être en même temps maire de la commune. Veuf depuis une dizaine d'années, vivant en compagnie de sa fille, également veuve et sans enfant, il entretenait de bons rapports de voisinage avec le vieux Macquart.
Il avait parfois gardé chez lui le petit Charles des journées entières. Sa fille s'étant intéressée à cet enfant, si beau et si à plaindre. Monsieur Morin s'effara, voulut remonter avec le docteur, constater l'accident, promit de dresser un acte de décès en règle. Quant à une cérémonie religieuse, à des obsèques, elle paraissait bien difficile. Lorsqu'on était rentré dans la cuisine, le vent de la porte avait fait envoler les cendres. Et, lorsqu'on s'était efforcé de les recueillir pieusement, on n'avait guère réussi qu'à ramasser les raclures du carreau, toute une saleté ancienne où il ne devait rester que bien peu de l'oncle. Alors, enterrer quoi ? Il valait mieux y renoncer. On y renonça. D'ailleurs, l'oncle ne pratiquait guère, et la famille se contenta de faire dire plus tard des messes pour le repos de son âme. Le notaire, cependant, s'était écrié tout de suite qu'il existait un testament déposé chez lui. Il convoqua sans tarder le docteur, pour le surlendemain, dans le but de lui en faire la communication officielle. Car il crut pouvoir lui dire que l'oncle l'avait choisi comme exécuteur testamentaire. Et il finit par lui offrir, en brave homme, de garder Charles jusque-là, comprenant combien le petit, si bousculé chez sa mère, devenait gênant au milieu de toutes ces histoires. Charles parut enchanté, et il resta aux Tulettes. Ce ne fut que très tard, par le train de 7 heures, que Clotilde et Pascal purent rentrer à Plassans, après que ce dernier eut visité enfin les deux malades qu'il avait à voir. Mais le surlendemain, comme ils revenaient ensemble au rendez-vous de M. Morin, ils eurent la surprise désagréable de trouver la vieille Madame Rougon installée chez lui. Elle avait naturellement appris la mort de Macquart. Elle était accourue, frétillante, débordante d'une douleur expansive. La lecture du testament fut, du reste, très simple, sans incident. Macquart avait disposé de tout ce qu'il pouvait distraire de sa petite fortune pour se faire élever un tombeau superbe, en marbre, avec 2 anges monumentaux, les ailes repliées et qui pleuraient. C'était une idée à lui, le souvenir d'un tombeau pareil qu'il avait vu à l'étranger, en Allemagne peut-être, quand il était soldat. Et il chargeait son neveu Pascal de veiller à l'exécution du monument, parce que lui seul, ajoutait-il, avait du goût.